Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Bonjour à tous, bonjour Alain. Bonjour. Donc aujourd'hui, on n'est que tous les deux. Nous avions prévu une émission sur les droits des femmes. Dans le cadre de notre émission. Malheureusement, donc, je pense qu'on la fera le mois prochain, en espérant que nos collègues féminines pourront être là et expliquer leurs droits et leurs combats pour...
Exactement, étant donné que notre pauvre, on ne va pas dire pauvre, mais malheureuse Brigitte, suite à ses problèmes de santé, bon, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, on est rassuré, elle est en train de reprendre des activités, mais c'est vrai qu'elle a voulu repousser d'un mois un petit peu sa présence avec nous. Donc nous lui souhaitons encore beaucoup de courage par rapport à l'épreuve difficile qu'elle a vécue. Elle devait s'occuper aussi de recruter, en fait, de voir avec une secrétaire de mairie ou une personne féminine pour parler des secrétaires de mairie. Malheureusement, il faut venir à Périgueux, c'était le cas difficile. Bon, on va en trouver une, c'est sûr, de le prochain coup, mais je vous promets qu'on parlera de secrétaire. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on est le 9 mars et que hier, c'était la journée de la femme, le 8 mars.
Non, des droits à la femme.
Les droits à la femme. voilà, excusez-moi, des droits à la femme. Mais c'est vrai que... Mais moi, je l'englobe. J'englobe tellement d'admiration pour le travail et un petit peu tout ce que font les femmes que... Moi, j'y englobe tout ce qui peut englober non seulement le droit, mais les droits de la femme. Et c'est important, mais aussi la vie familiale, la vie politique, la vie sociale. On a besoin des femmes et elles sont toujours présentes quand on a besoin de quoi que ce soit au niveau des communes. Et c'est vrai que c'est bien marqué par le fait que nos secrétaires sont plutôt féminines. Bien sûr, il y a quelques secrétaires masculins, mais c'est vrai que... J'ai toujours dit, moi, qu'une bonne secrétaire faisait un bon maire et pas le contraire. Donc ça veut dire, quelque part, que les femmes nous sont indispensables. Et tant mieux s'il y en a beaucoup qui aujourd'hui, se mêlent à la vie politique. Et la parité est une bonne chose.
Il y a cet aspect, l'aspect politique, mais il y a l'aspect administratif qui est important pour un maire. Et on le voit souvent... Ces secrétaires de mairie qui ont des fois à charge 2-3 mairies, c'est pas facile pour elles de mener ce combat-là. Donc on en reparlera le mois prochain. Donc là, on va parler un petit peu où en est le congrès national des maires ruraux qui, je le rappelle, se tiendra au mois de septembre à Aimé.
Oui, tout à fait. Mais avant, si tu permets, Gérard, je voudrais quand même, dans cette émission, c'est important... Je voudrais parler, on est en pleine actualité, en plein temps de guerre, et je voudrais quand même dire deux ou trois mots là-dessus. Vous pensez bien que l'Association des maires ruraux, qu'elle soit de France ou qu'elle soit du Périgord, on a la même pensée pour nos collègues et puis surtout pour la population ukrainienne, et qu'on est tout à fait en soutien de ce qui se passe. Et donc, l'AMRF et l'AMR aussi, on a mis en place des systèmes. Alors, beaucoup de mairies, aujourd'hui, ont le panneau pocket. Et il y a tout ce qu'il faut, aujourd'hui, soit pour accueillir des familles ukrainiennes, soit pour envoyer des colis ou quoi que ce soit au niveau de l'Ukraine. C'est en place et on espère qu'on va continuer comme ça. Et on espère surtout que la guerre va s'arrêter. Il faudrait que M. Poutine prenne conscience un petit peu des effets néfastes de son intervention. Alors c'est vrai que la Russie d'époque était peut-être plus grande, mais je trouve qu'aujourd'hui, elle devrait être plus démocratique. C'est surtout ça qui est important. Et c'est vrai que le peuple ukrainien, à son indépendance, il faut la lui laisser. Surtout qu'on a, on a beaucoup de points communs avec ce pays. Donc tous ceux qui se mettent en ordre de bataille, si j'ose dire... Pour aider tous ces Ukrainiens, il faut le faire parce que on le voit à travers les médias, c'est une catastrophe pour les populations. Alors,
et je rajouterai un petit mot dans ton intervention parce que je crois que ce qui est important, tu as parlé du peuple ukrainien, mais moi je parlerai un petit peu du peuple russe parce que bon, c'est Poutine qui a déclaré la guerre au peuple ukrainien, c'est pas le peuple russe. Et aujourd'hui, vous avez pu le voir dans l'actualité, il y a eu plus de 15 000 personnes qui ont été arrêtées en Russie pour avoir manifesté contre cette guerre. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une guerre contre les peuples. Et c'est en cela que nos associations vont soutenir le peuple russe et le peuple ukrainien.
Tout à fait, tu as tout à fait raison. Et ça rappelle de funestes moments de la guerre de 39-45, où beaucoup de résistants avaient été, non seulement les juifs, mais beaucoup de résistants avaient été arrêtés et exécutés. Alors j'espère que tous ces Russes qui sont contre la guerre ne seront pas exécutés, ça serait quand même triste. Mais surtout, pensez à eux aussi, parce que c'est vrai que dans le peuple russe, il y a beaucoup de démocrates qui résistent et qui s'opposent à Vladimir Poutine. Voilà.
Donc, pas que les démocrates, il y a surtout aussi... Dans l'actualité, c'est beaucoup de mères de famille, de pères de famille,
exact,
qui refusent que leurs gamins aillent tuer leur frère ukrainien.
Non, mais on est
donc
bien d'accord.
On est vraiment contre la guerre et il faut aider ces peuples-là à vraiment à faire qu'ensemble on puisse arrêter cette guerre.
On a tout dit.
Donc malheureusement, bon, on va être obligé de continuer un petit peu sur l'actualité qui nous concerne un petit peu plus. Donc ce congrès.
Alors ce congrès, il faut espérer déjà que le Covid s'éloigne de plus en plus, en espérant qu'il ne reviendra pas à la rentrée. Ce congrès, c'est quand même quelque chose d'important pour la Dordogne. C'est la première fois qu'un congrès national de maires et de particulièrement des maires ruraux se font dans le département. On va attendre une participation de 500 à 600 personnes minimum. Donc c'est une grosse organisation. Nous avons déjà fait plusieurs réunions pour organiser ça. Maintenant, ce que je dois dire à nos collègues élus et puis à la population, parce qu'il y aura des débats où la population pourra participer, ce sont des débats très très intéressants. La dernière fois, justement, dans le dernier congrès, le thème c'était... la commune, la femme, la République. Donc la femme avait été mise à l'honneur sur ce congrès. Ça a été des débats passionnants avec les représentants de l'État féminin. Et c'est vrai que pour la première fois dans un congrès, je pense que nous avons eu des femmes qui ont débattu et les hommes étaient là pour de l'écoute. Et bien sûr, on a pu participer, mais c'était surtout écouter les problèmes des femmes en politique. Et c'était très intéressant. Là, ce congrès sera basé sur le tourisme. Le département de la Dordogne est un département très touristique et on voudrait l'associer à l'agriculture, bien sûr, donc sur l'agrotourisme, sur les circuits courts et puis bien sûr sur tout ce qui concerne l'arrivée des touristes en Périgord, puisque c'est une région, c'est un département très, très touristique. C'est pour ça que nous avons invité le département, enfin, avec Sylvie Chevalier qui est la chargée du tourisme. Moi, je dois rencontrer... Alain Rousset, qui lui aussi connaît l'importance du tourisme dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc ce congrès sera tourné vers ça. Le point important aussi, c'est d'avoir un congrès comme ça, c'est qu'on va essayer de faire travailler les chambres d'hôtes, parce qu'il faut trouver quand même 300 à 400 nuitées dans le week-end, c'est-à-dire en trois étapes, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc c'est un congrès qui... parlera beaucoup de politique, mais de politique locale. On ne sera pas sur des grands thèmes comme l'élection présidentielle sera passée, les législatives seront passées. Donc nous aurons des interventions certainement de ministres. On souhaite que soit le Premier ministre, soit le Président viennent à Imé. Et donc ça sera un grand événement pour à venir, surtout pour les élus de base qui ne sont pas toujours confrontés à ces problèmes-là, et ils seront bien sûr invités. Tous les maires et tous les élus de la Dordogne seront invités à venir à ces débats qui vont durer 3 jours. Donc ça, c'est important. Nous aurons aussi une cinquantaine d'exposants régaliens par rapport à collectivités territoriales, aux collectivités locales. Et c'est vrai que ces partenaires régaliens que sont EDF, GRDF, Orange, le Crédit Agricole, Groupama, il y en a quand même pas mal, viendront parler de la relation qu'ils peuvent construire avec les mairies et avec les communes rurales.
Je pense qu'au niveau de ce congrès, tu l'as fait, ce serait très local, mais on voit, et je vais en revenir un petit peu en arrière de ce qu'on a dit tout à l'heure, le rôle des mairies dans la solidarité avec l'Ukraine. On a vu pendant le Covid le rôle qu'a joué les mairies dans l'organisation du combat contre le Covid. Est-ce que ce serait donc pas aussi le fait de faire une certaine reconnaissance des bienfaits des communes?
Mais
Et surtout rural.
de toute façon, c'est une constatation. Beaucoup de gens nous disent qu'il y a trop de communes en France. Moi, je dis non, il n'y en a pas assez. Pourquoi? Et le gouvernement, le dernier gouvernement s'en est bien rendu compte à travers les cahiers de doléances qu'il y a eu lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de Français s'en sont rendus compte avec le Covid. Supprimer une commune rurale, c'est supprimer un maire rural. Et le maire rural, c'est celui qui est le plus proche de la population, c'est celui qui parle vrai avec la population, c'est celui qui écoute la population. Et donc, je ne vois pas comment un gouvernement parisien pourrait se passer d'un tel support en cas de difficultés majeures. Donc moi je dis, et je suis rassuré, quand on me dit que les mairies sont trop nombreuses en France, je dis non, parce qu'on a besoin de cette proximité. Imaginez demain que le seul représentant de la commune soit en principe un président d'intercommunalité ou un maire qui va gérer 5, 6, 7, 8 communes qui sont regroupées. Vous pensez bien qu'il ne va pas connaître toute la population. Et quand la population va se tourner vers lui, il sera impossible d'avoir ce contact de proximité. J'ai souvent dit que quand je pose la question dans une commune rurale où je vais, quand je leur demande le nom de leur président, la population, je parle bien, je leur demande le nom de leur président d'intercommunalité, ils sont incapables souvent de me dire qui c'est. Quand je leur demande le nom de leur mère, ils ne me donnent pas son nom, ils me donnent son prénom. Ça veut tout dire.
C'est ça, je crois que c'est important de montrer le rôle qu'ont joué les communes. À la période actuelle, on l'a vu pour l'élection présidentielle, près de 13 000 élus ont décidé de parrainer un certain nombre de candidats, donc il y en a 12. On l'a vu aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu ça, la démocratie était vraiment en danger en France. Hein,
Mais ça reste un véritable problème, le système des parrainages. Et je crois que certains candidats ont raison. Il faut trouver une autre méthode de parrainage. Parce que de voir que sur le total, il y en a la moitié qui n'ont pas eu les parrainages, c'est fort dommage parce qu'il y en avait quelques-uns. Moi, je le reconnais. J'ai voté, j'ai donné mon parrainage à un candidat qui voulait défendre les communes rurales. Jean-Marc Fortané, pour pas le nommer, il a fait très peu de voix, mais c'est vrai que quelque part, quand je voyais ses programmes, il se rapprochait de ce que veut le peuple. Après, derrière, bon, il y a des choix aussi politiques, il y a des maires qui ont des choix politiques, il faut le respecter, c'est respectable. Mais ce que je trouve quand même difficile, c'est de voir que plus de la moitié, même plus des deux tiers des maires n'ont pas donné leur parrainage, et ça, je l'ai déjà dit dans les radios locales, c'est que c'est dû au fait que on vient chercher des parrainages, on fait des promesses et ces promesses ne sont jamais tenues. Donc c'est pour ça que les maires en ont de plus en plus marre d'avoir ces situations. Et il faut redevenir vers plus de démocratie, mais aussi il faut y faire participer la population. Donc l'idée d'associer les parrainages à un nombre de parrainages du citoyen lambda, je trouve que ça ne serait pas une mauvaise solution. Parce que ça permettrait à certains candidats, même s'ils sont pas dans, comment dire, s'ils sont pas dans la mouvance d'un maire, peuvent toujours obtenir des parrainages un peu ailleurs. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais bon, la démocratie quand même existe en France. Il faut quand même, je sais que moi j'ai beaucoup voyagé, mais je pense que la France quand même est un des pays les plus démocratiques qui existent. Et l'élection en fait partie. Et souvent je dis, même si on n'a pas de candidat pour qui voter, il faut au moins aller voter. C'est-à-dire, on peut voter blanc, on peut voter ce qu'on veut, mais au moins d'avoir la présence de dire je suis là, je vote. Et ça, c'est important parce que quand on voit, j'avais posé la question à mon premier ministre, Édouard Philippe, à l'époque, quand je lui ai amené mes cahiers de doléances de la Dordogne, je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous faites du vote blanc et de l'abstention? Et il m'avait répondu à ma question par une question, il m'avait dit, et si on rendait le vote obligatoire? Donc ça peut être une des solutions, mais ça ne peut être qu'une solution. Je ne sais pas, il faut que tout le monde s'exprime là-dessus. Je crois aussi que par rapport aux élections, je crois qu'aujourd'hui, on a des jeunes. On ne passe pas aux jeunes. Les jeunes, vous les voyez dans la rue, à la sortie des écoles, vous les voyez à la sortie du cinéma, à la sortie des magasins. Ils ont tous les doigts rivés sur leur smartphone ou leur iPhone. Eh bien, je crois qu'il est temps aujourd'hui, on le fait beaucoup dans les collectivités locales, il est temps aujourd'hui d'autoriser les gens à voter par le numérique, par Internet. Donc c'est une solution et je pense qu'il y aurait beaucoup de jeunes qui voteraient si on leur permettait de voter à distance comme ça. Bien sûr, il faut le sécuriser, Mais je pense qu'on va vers ça, de toute façon, on va vers ça.
Pour revenir sur le congrès, là, tu disais que bon, ça serait axé sur le tourisme et l'agriculture. Comment tu vois un petit peu ce congrès, les débats qu'il peut y avoir?
Alors, j'ai dit ça, mais il est bien évident que le national m'a rappelé à l'ordre, c'est-à-dire que on sera passé par une présidentielle et on sera passé par une législative, il est bien évident qu'il y aura aussi des sujets beaucoup plus politiques, c'est-à-dire de la politique, vraiment de la politique du territoire, la politique de la France. Donc il y aura des débats aussi qui viendront suivant le calendrier et suivant les sujets du jour. Ça peut être la sécurité, ça peut être le pouvoir d'achat, ça peut être, il y aura des sujets là-dessus. Sur le tourisme, moi je souhaiterais... Et c'est venu à l'idée pendant la première réunion, parce qu'on se réunit tous les mois maintenant pour l'organisation, il y a une bonne idée qui est apparue, c'est-à-dire de faire... On fait des tables rondes, comme partout. On fait des tables rondes sur plusieurs sujets. Et on aura des tables rondes sur le terrain. C'est-à-dire que moi, j'ai proposé, par exemple, si on met les circuits courts, la CAB à Bergerac a acheté une ferme qui s'appelle la ferme des Nébous, a monté une légumerie. Et ça serait peut-être de faire le débat sur place, c'est-à-dire d'amener les élus vers ces projets nouveaux, ces projets innovants, et de leur faire voir ce qui se passe et en débattre. Voilà un petit peu l'idée. Ça sera assez nouveau aussi, donc ça peut être une bonne chose. Le deuxième point aussi des débats, ce qu'il faudra aussi beaucoup parler, c'est du rôle du tourisme en Dordogne par rapport à la mobilité, par rapport à l'accueil, par rapport aux accueils, par rapport au prix, par rapport au choix. Il y aura tout un tas de panels où on pourra discuter. Et c'est là-dessus que je compte aussi sur Sylvie Chevalier, qui est la chargée du tourisme dans le département, pour nous apporter... déjà sa contribution au débat et de dire un petit peu ce qu'elle ressent par rapport à tout le département, parce que moi je suis dans le Bergeracois, mais du tourisme dans le département, c'est pas le même si tu vas à La Roche-Chalais, si tu vas à Sarlat ou si tu vas à Bergerac. C'est pas du tout le même genre de tourisme, la même difficulté. Donc c'est de ça que je voudrais qu'on parle, et puis qu'on parle aussi, bien sûr, parce qu'aujourd'hui c'est une source de revenus nouvelle entre parenthèses, mais c'est vrai que c'est une possibilité pour les agriculteurs avec l'agrotourisme d'avoir un supplément de rémunération. Vous savez, aujourd'hui le salaire moyen des agriculteurs est très bas, mais c'est vrai que si on peut les aider sur leur profession d'agriculteur, mais aussi leur territoire qui est touristique, de pouvoir y associer deux revenus, ça me paraît intéressant.
On va faire une petite pause musicale et on reprendra le débat.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est un stit. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on n'ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. on est les oubliés. La campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Y'a des gens sur le terrain, de la crêpe plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux. Ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau. La campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, y a l'institut du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Nous allons parler de la loi qui a été adoptée par le Parlement.
Par le Parlement.
La loi dite les 3D.
Les 3D, voilà. Alors, différenciation.
Les 3D, c'est quoi?
Alors oui,
décentralisation, différenciation.
Différenciation et la dernière, je ne me rappelle plus, c'est assez compliqué. Mais enfin bon, c'est une loi aujourd'hui où les maires ruraux ont beaucoup travaillé. Bon, on a fait beaucoup de propositions et pouf, ça s'est écroulé. On est vraiment déçus des amendements qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Alors le Sénat en a fait un peu moins, bien sûr, puisque c'est le représentant des collectivités locales. Mais franchement, on est déçus. Franchement, on est déçus sur beaucoup de sujets qui n'ont pas été repris. Et donc, quelque part, je dis que le 4e D, c'est, ils ont détricoté un petit peu cette loi. Et c'est toujours pénible de voir qu'on aurait pu faire mieux.
C'est donc une loi qui se... une continuité un peu la loi NOTRe.
Alors c'était un petit peu, pour revenir un peu sur certains sujets, pour donner un peu moins de pouvoir à la loi NOTRe, et on se rend bien compte que les députés, les cabinets parisiens, les ministères, ils sont plutôt métropolitains que ruraux. C'est-à-dire que quelque part, encore une fois, le rural n'est pas écouté, alors qu'on représente quand même plus de presque 40% de la population, donc on trouve ça que c'est illégitime. Sachant toujours, comme je le dis, que dans les lois de finances, le rural est moins considéré que l'urbain. Et dans la loi NOTRe, bien sûr, la part belle est faite aux métropoles. Et pour preuve, je l'ai déjà dit, sur la taxe d'habitation, c'est un véritable scandale. Alors c'est vrai que le côté positif, c'est que les Français ne payent plus cette taxe d'habitation, qui me paraissait juste en plus. Mais derrière ça, c'est les conséquences. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte à travers le ruissellement des surcompensations et des sous-compensations que l'État a encore piqué 41 milliards aux communes rurales pour reverser 41 milliards aux communes urbaines et des métropoles. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment nous chagrine. Et si demain, vous avez vos maires qui augmentent la taxe sur le foncier bâti, ne vous étonnez pas. Ça veut dire que quelque part, ces 41 milliards que l'État a pris, il va falloir les retrouver quelque part. Et donc, quelque part, je pense que même si les bases locatives vont augmenter, il y a beaucoup de mairies qui vont augmenter leur foncier bâti pour l'année prochaine et les années à venir.
Je vois dans cette loi, il parle de transfert de compétences à la carte.
Mais oui, ça c'est certainement une des victoires que nous avons obtenues pour... la loi, elle ouvre la possibilité pour un EPCI de se voir transférer une compétence facultative par seulement une partie de ses communes membres, et non par leur totalité. Donc c'est bien sûr sous réserve d'approbation conjointe par le conseil communautaire et les conseils municipaux concernés. Donc vous voyez que ça brasse du monde. Mais ça laisse les autres communes libres de conserver, si elles le souhaitent, l'exercice des compétences en question. Ça veut dire qu'une commune toute seule pour revenir sur une compétence.
Alors, par exemple, pour un exemple pour nos auditeurs puissent comprendre, est-ce que, par exemple, les routes, c'est une compétence facultative?
Oui, c'est une compétence facultative. Ça veut dire que quelque part, si une route veut garder la compétence de ses routes, elle pourra.
Hein, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a dans certaines EPCI, alors communauté de communes, il y a des difficultés pour l'entretien. Il y a des communes qui souhaiteraient reprendre un petit peu leurs compétences pour améliorer leur route.
Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution de reprendre la compétence pour la commune, mais attention, avec un risque, c'est qu'aujourd'hui, les routes, ça coûte énormément cher. Et une commune qui a beaucoup de routes sera plus pénalisée par une qui a beaucoup moins de routes. Moi, je vois l'exemple. Moi, j'ai 8,5 km de route de voie communale. J'ai la commune d'à côté de Ténac qui, elle, en a 25. On n'est pas sur la même grandeur. Et donc, quelque part, il est beaucoup plus pénalisé que moi. Donc, quelque part, faut étudier un petit peu les ratios. C'est-à-dire que si l'intérêt, c'est de faire... si vous avez un EPCI qui travaille collectivement en fonction de la richesse de la commune, je pense qu'il faut rester sur un domaine intercommunal. Par contre, si c'est pas ça, une commune peut très bien toute seule reprendre la compétence des routes. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc ça, on le demandait depuis longtemps, que les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération puissent avoir le libre choix, elles l'ont. À partir d'aujourd'hui, cette loi 3DS leur donne cette compétence-là. Maintenant, dedans, il y a beaucoup d'autres choses qui sont importantes. Je vais prendre un exemple frappant. C'est une commission qui s'appelle la CDPNAF. Alors, c'est assez compliqué, mais cette commission, elle joue sur l'urbanisme, elle joue sur les projets, elle joue sur les énergies renouvelables. Et c'est vrai que cette CDPNAF, aujourd'hui, on est très peu nombreux. Et on revendiquait le fait de mettre beaucoup plus d'élus ruraux au sein de la CDPNAF. Ça, c'est une petite victoire, puisque le droit des maires le maire aura le droit d'être auditionné par cette CDPNAF sur les projets de sa mairie, et c'est inscrit dans la loi. Donc cette loi maintenant est généralisée, c'est une bonne chose, parce que souvent la CDPNAF choisissait des projets sans en parler aux maires concernés. Donc ça, c'est fini. Donc ça va un peu mieux par rapport au fait qu'on écoutera les maires. Ça va un peu moins bien dans le sens où il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus de maires ruraux au sein de cette CDPNAF. Voilà, ça c'est un exemple aussi.
Alors je vois aussi qu'il y a des délégations de compétences intercommunales vers les départements ou vers la région.
Oui.
Alors c'est, faut préciser, c'est quel, c'est les... A priori, c'était les transports qui...
Tout ce qui concerne. Ça peut tout concerner. Ça peut concerner les transports, puisque les transports, c'est la région qui l'a. Ça peut concerner les collèges, c'est les départements qui l'ont. Ça peut concerner les lycées, c'est la région qui l'a. Toutes les compétences aujourd'hui de la région ou du département doivent écouter ce que diront les délégations intercommunale sur ces problèmes spécifiques des départements ou des régions.
Et les intercommunalités sur la question, par exemple, des transports.
Voilà.
Transports scolaires,
voilà.
Au niveau des écoles, les RPI, tout ça. Donc
c'est très important. Vous pensez bien qu'en plus, ça coûte énormément cher. Donc, quelque part, qu'on puisse discuter avec la région, c'est une bonne chose.
Il y aura une délégation des fonds de l'ADEME aux régions.
Ça aussi, c'était pas prévu. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers l'Estradet, les régions vont travailler sur les projets économiques, bien sûr, mais aussi sur les projets d'énergie renouvelable, sur la transition écologique, sur la transition énergétique. Et c'est vrai que quelque part, l'ADEME aujourd'hui pourra intervenir sur beaucoup de projets, de sujets qui concernent beaucoup les communes rurales. Parce que vous voyez bien aujourd'hui que les principaux sites de photovoltaïque, on le voit beaucoup plus dans le rural. Les éoliennes, n'en parlons pas, parce qu'en Dordogne, on est unanimement défavorable aux éoliennes.
Et je vois qu'il y a un article sur l'implantation des éoliennes dans le cadre...
Oui, c'est vrai. Donc, comme j'ai dit sur le commentaire, ce n'est pas un droit de veto octroyé aux maires. Donc, ce sont les PLU à travers les SCOT qui évolueront selon les règles de la modification simplifiée, et l'évolution fera l'objet d'une enquête publique. Donc, quelque part, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de maires qui s'opposent à des grands projets. Bien sûr, si c'est des projets sur une toiture photovoltaïque d'une ferme, si c'est un projet communal sur un projet d'un hectare, deux hectares, c'est pas la même chose que ces grands groupes qui nous arrivent et qui veulent faire des 13, 14, 20, 30 hectares de photovoltaïque. C'est pas la même chose. Il faut regarder quand même, faut regarder un peu les paysages. Et c'est vrai que quelque part, moi, je comprends les élus. Alors, Brigitte n'est pas là, mais elle sera contente si elle m'entend. C'est qu'aujourd'hui, dans la Double, planter des éoliennes qui font 100 mètres de hauteur, c'est pas très esthétique, c'est pas très efficace parce qu'il n'y a pas toujours du vent. Et puis les maires en veulent et la population n'en veut pas, quoi. C'est clair et net. Et c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas l'expérience. Mais moi, quand je me dirige à la région de Perpignan ou que je monte vers la Bretagne, quand je vois ces champs d'éoliennes, à travers les paysages, c'est affreux, quoi. C'est affreux. Je pense qu'il faut, il faut combiner, quand on veut poser des éoliennes, il faut combiner un petit peu tout, quoi. Le paysage est primordial.
Je crois qu'on reviendra au cours d'une émission sur cette loi, la détailler de façon plus importante. On va en arrêter là pour aujourd'hui, à moins que tu aies un dernier petit mot à
nous dire. Oui, je voudrais dire que l'équipe projet, ce matin, je fais partie de l'équipe projet de la préfecture avec le SMPN sur la continuité de la pose des pylônes téléphoniques. Vous savez que beaucoup de zones blanches ont été éliminées en Dordogne. Moi, je dois reconnaître que l'équipe projet de la préfecture a très bien fonctionné. Et c'est vrai qu'on a eu plus de 150 pylônes de posés depuis 2020 où ces équipes projets ont été mis en place par France Numérique, par l'État, avec un rôle majeur des quatre opérateurs, puisque c'est eux qui les financent. Et c'est vrai que la Dordogne, je dois le reconnaître, a été très bien servie, puisqu'on est en moyenne entre 10 et 15 pylônes qui se posent par an sur le département, plus ceux qui sont faits par les opérateurs sur les axes routiers et les axes ferroviaires. Donc ça veut dire que beaucoup de pylônes ont été posés. Ce matin, on a décidé on en a eu 10 pour l'année 2022. Donc ces 10 sont un peu démultipliés parce que on a eu l'équipe projet a eu l'intelligence de le faire, au lieu de faire un site par commune, a fait un site par exemple sur la RN21, sur le nord du département, où là, c'est 5 sites qui correspondent à un site. C'est-à-dire que pour un site, on va avoir 5 pylônes. Donc ça, c'est important. C'est une solution intelligente et c'est une solution qui va arranger beaucoup de choses. Il va y en avoir sur Porte Sud, il va y en avoir un petit peu partout. Là, il y en a 6 de prévus pour cette année, mais alors, l'important, c'est que ces 6, on les prévoit en 2022, mais ils ne seront pas posés avant 2024, puisque vous savez que le délai entre l'étude, la pose, les travaux et tout ça, c'est un laps de temps de 2 ans. Une fois que nous, on a décidé de la pose de ce pylône, l'opérateur a 2 ans pour le poser.
Bon, ben, je te remercie, Alain.
Et ça avance.
OK, et puis on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission.
Eh bien, au revoir à tout le monde.
Au revoir et à bientôt.